je vous propose de retrouver l'invité de Théo Nana, Théo Théimotaina, Jacques Pellot. Jacques, bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation.
Bonjour Toto, bonjour Sophie, et merci de m'avoir invité, c'est vraiment gentil.
Voilà. Alors, tu es très connu sur les ondes de Radio Marquise, on parle beaucoup de tes émissions. En tout cas, pour une grande majorité, on découvre l'histoire des Marquises grâce à tout ton travail de recherche. Alors, tu fais partie de l'enseignement de l'éducation nationale, donc tu enseignais auparavant l'anglais. Alors, de l'anglais à l'histoire des Marquises, il y a un grand saut que tu n'as pas hésité à sauter, et combien ? C'était difficile sûrement, puisque beaucoup d'écrits sont un peu dispersés dans la nature. Alors, à quel moment ça t'a pris de relever ce défi ?
Eh bien, comme tu le disais, j'ai été professeur d'anglais 6 ans à Wapo et 4 ans au collège de Nukuhiva. J'ai pris ma retraite en 2009. Et quand on part à la retraite, c'est un vrai chambardement. Hein. On n'a plus de boulot, on n'a plus d'horaire, il faut trouver ses marques. Donc dans un premier temps, je me suis occupé de ma maison, de mon jardin, de mettre les choses en place, de mes papiers, de plein de trucs importants. Et très vite, j'ai aussi commencé à donner des cours de langue marquisienne à une certaine époque, hein, parce que des gens me le demandaient. Mais ce qui a déclenché vraiment l'histoire, c'est qu'un jour, il y a au début 2013, par là, Laranoui a fait appel à moi parce qu'il leur manquait un guide. Ils m'ont appelé, ils étaient en train de monter vers les Marquises et ils m'ont dit « Jacques, on a un guide qui est malade et on voudrait bien savoir si tu peux le remplacer. » Donc je leur ai dit « Rappelez-moi dans 3 heures, je vais regarder ce que j'ai. » Ils voulaient que je fasse le guide sur la cathédrale à Tiheu et aussi Paike à Taipivai. Et donc j'ai dit que je pouvais faire la cathédrale et à Tiheu parce que j'avais tous les documents et je connaissais déjà pas mal de choses. Paike, par contre, j'avais pas assez de documents pour faire le guide, mais ils avaient quelqu'un de compétent pour le faire aussi. Et quand je me suis trouvé face à 80 francophones, bien sûr, je racontais l'histoire que j'avais lue dans le livre que Monseigneur Hervé a écrit, mais je me suis rendu compte surtout que j'en connaissais pas assez pour faire ce travail-là. Et comme je suis vraiment, j'aime beaucoup l'histoire, c'est grâce à l'histoire que j'ai eu mon bac d'ailleurs, je me suis dit, bon, j'étais professeur d'anglais, donc je sais qu'il y a beaucoup de livres qui sont en anglais, donc j'ai commencé à lire et à relire tout ce que j'avais déjà acquis comme bouquin et que je n'avais jamais lu. J'ai pris le temps de le faire, donc première lecture, on lit le livre. Deuxième lecture, on prend des notes. Et troisième lecture, on met tous ces notes dans son ordinateur pour pas que ça se perde. Ça, c'est la grande richesse de notre époque. C'est que quand on travaille, le travail n'est pas perdu, quoi. Et donc, j'ai compilé pendant... J'ai lu pendant 2 ans, comme ça. J'ai lu et relu tous les grands bouquins dont je parle dans mes émissions, à savoir essentiellement le livre de Greg Denning et puis le livre de Roland.
Alors, est-ce que c'est une bonne traduction ?
Ah là, je me suis pas penché sur la traduction parce que
je sais que monseigneur.
Oui, mais bon. Non, d'abord, ça serait faire du mauvais esprit que d'essayer de comparer la traduction avec le texte. Moi, j'avais déjà du mal à lire tout ça parce que Greg Denning, c'est quand même pas donné à tout le monde de le lire. Ouais. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de profondeur dans ce qu'il dit. Hein. C'est une vision globale de toute la culture marquisienne. Donc, il m'a fallu au moins trois lectures pour comprendre ce qu'il voulait dire. Mais tout ça, ce sont des récits ponctuels. J'ai aussi beaucoup travaillé sur le livre de Michel Bailleul, qui a fait une thèse sur l'histoire des Marquises. Hein. Michel Bailleul, qui était...
Voilà, j'ai une copie de son travail qui est disponible au centre de documentation.
D'accord, qui est aussi publié au Cahier du patrimoine.
Absolument.
Et donc, ça permet là d'avoir une vision...
Et que je me réjouis de l'avoir lu comme professeur d'histoire géo.
Ça m'étonne pas, oui. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, ce monsieur. J'ai communiqué avec lui. J'ai essayé de lui faire savoir ce que j'avais fait aussi pour qu'il me donne son avis. Et ainsi, avec le livre de Bailleul, j'avais une suite chronologique de l'histoire à laquelle je pouvais rattacher tous les événements que je rencontrais. Et ce à quoi je me suis attaché, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait dès le départ, mais à relever toutes les dates. C'est-à-dire que j'ai fait le travail inverse des historiens. Les historiens, ils vont dans les documents à fond, et ensuite ils font une synthèse, ils s'élèvent au-dessus de tout ça. Et moi, je suis retourné aux dates, c'est-à-dire aux faits. Et en fait, mes émissions sont une compilation de dates, ce qui me permet d'avancer dans l'histoire avec des événements importants qui sont bien marqués par des dates et souvent qu'on a oublié, quoi. Je me suis attaché à ça. Et quand j'ai eu terminé tout ce travail de compilation, ça a duré plus de 2 ans, je me suis dit, je ne vais pas écrire un autre bouquin parce que personne ne va le lire. Tout ce que j'ai appris, moi, je l'ai lu dans les livres. Ouais. Si les gens ne l'ont pas lu, personne, voilà. Et j'ai eu l'idée de faire des émissions de radio, mais je ne savais pas comment faire. C'était l'époque où, en 2016, mon frère Daniel, qui était pilote ici, est venu passer 2 mois de vacances. Donc, quand il a été parti, j'ai des amis professeurs au collège qui sont partis maintenant, qui m'ont dit, nous, on peut t'aider. On a déjà fait des émissions de radio quand on était en Guyane. C'était Chantal et Séverine. Et le problème, c'est que les professeurs travaillent. Hein. Et moi, j'étais professeur, je sais que pendant 4 ans que j'étais ici, je n'ai pas passé un seul week-end à faire la fête. Hein. C'était le boulot avec 6e, 5e, 4e, 3e et 2e.
Ah oui.
Donc, la première émission, il a fallu presque un mois pour la faire. Pas la rédiger, moi j'avais déjà rédigé, mais l'enregistrer, la monter, etc. La deuxième émission, un mois aussi. Donc, j'ai dit, c'est pas possible, quoi. Donc, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé le logiciel sur Internet. Je m'y suis mis tout seul. J'ai appris tout seul avec le mode d'emploi. Et en 2 jours, j'ai monté ma troisième émission. Et après, je faisais une émission par jour, quoi. Et donc, en fin juillet 2016, j'ai apporté les émissions pour qu'elles soient programmées... à la rentrée de 2016 sur les deux radios, Théo Kounoui et Radio Marquise. Puis après, l'année d'après, c'est Polynésie, la première, qui m'a contacté pour me dire « on a entendu parler de vos émissions, ça nous intéresserait ». Et donc maintenant, il est passé sur Polynésie première. Voilà le processus, comment ça s'est passé.
Donc, voilà. Donc dès le départ, quelqu'un avec cette qualité de self-made man, puisque de logiciels, il y en a un paquet, hein, pour faire des... Mais bon, il faut en tout cas avoir un petit matériel. Déjà, c'est la difficulté peut-être au niveau de Radio Marquise, on n'a jamais réussi à avoir un vrai studio d'enregistrement de manière à faire juste le travail d'enregistrement après aux techniciens donc, qui maîtrisent un peu toutes ces choses-là, d'arranger, de faire en sorte que la voix ressort bien, peut-être de mettre un habillage sonore avec des fonds musicaux. Mais bon, c'est vrai, c'est tout un travail. On essaye avec un conseiller municipal, non une conseillère, donc de proposer au niveau de la commune un projet, un studio d'enregistrement. Il y a de la place hein, ici, hein. Il n'y a pas besoin, tu as pu te rendre compte, il n'y a pas besoin d'avoir une foultitude de matériel. Maintenant avec un bon PC et les logiciels adaptés, on peut faire effectivement du très très bon travail. En tout cas, je te félicite pour tout ce travail énorme qu'il a fallu faire. Bon, il faut déjà, je crois, beaucoup de patience. Alors, comment est-ce que aujourd'hui, en 2018, eh bien, on peut être tout à la fois, pas regarder en arrière, mais s'intéresser à ce qui s'est passé dans les années 1800. Peut-être que tu as réussi à remonter jusqu'à quelle année à peu près?
Alors, grâce au pasteur Crook, qui a vécu ici. Sur Tahuata entre 1797 et 1798 et ensuite 1798-1799 sur Nukuhiva, qui nous a laissé son journal très détaillé et surtout il a laissé tous les noms des chefs et de leurs familles et des gens importants des îles, des grands prêtres Tahua. C'est là-dessus que tous les gens qui appartiennent à la famille des chefs de Nukuhiva peuvent se baser pour remonter jusqu'à leurs ancêtres, c'est-à-dire vers 1730 à peu près. Quoi, hein. Quand Crook était ici, c'était Kiatonui qui était le grand chef des Teihi, et il a noté le nom de sa mère qui était Putahai'i, et le nom des grands-parents. Les grands-parents du côté de Putahai'i, c'était Moana, le premier Moana, c'est le premier dont on entend parler, qui avait dû naître vers 1730 ou 40 par là, qui était donc le grand-père de Kiatonui, et sa femme s'appelait Titi Haka'iti. Ça, c'est les parents maternels de Kiatonui. Du côté de son père, c'était Timauteihi. Son père s'appelait comme ça. Il est mort en allant à Eiao, il est mort en mer. Et le père de Timauteihi s'appelait Puakakahu, hein, Puakaka'a selon la famille. On n'a pas le nom de sa mère. Et voilà, donc c'est cette époque-là, grâce à Crook, on connaît les ancêtres de la famille des chefs de Nukuhiva. À peu près, mettons, 1740, en gros 1730, certains disent 1725, mais ils ne peuvent pas dire 1725, il n'y a pas de document qui le prouve, quoi. Voilà.
Est-ce que, à travers toutes ces recherches, tu as été amené également à regarder au-delà de nos horizons ce qui se passait un peu du côté de Tahiti ou de Raiatea, la Sacrée, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble ce fonctionnement de la société polynésienne, marquisienne? Vous savez qu'ils étaient presque à part, hein. Il n'y avait pas beaucoup de ressemblance déjà au niveau de la langue. Jusqu'où tu as été obligé d'aller chercher?
Eh bien, pour être très, très honnête, je suis très spécialisé. C'est-à-dire que maintenant, ma vie elle est centrée sur les Marquises, parce que je vis ici, et c'est là que je mourrai, j'espère. Et je voulais comprendre aussi. Ça, c'est une des motivations qui m'a aussi poussé. C'est que depuis que je suis aux Marquises, depuis 1995, j'entends dire des choses de toutes sortes. Même encore maintenant, les gens disent des choses devant moi qui sont complètement fausses. Tout le monde vit sur des à peu près. À peu près. Tout est à peu près. À 50 ans près, on mélange les générations, mais ça ne gêne personne, quoi. Hein. Et maintenant, je peux aussi répondre à ces questions. En particulier, moi je suis catholique pratiquant, Je voulais savoir quel était vraiment le rôle de l'Église. Est-ce que l'Église avait vraiment fait tout ce qu'on disait, en particulier à propos de ce qu'on dit, ce qu'on appelle le code d'Ordillon. Quand les gens disent ça, ils se trompent. C'est encore là l'accumulation de l'anticléricalisme qui continue de nos jours. L'Église et l'État sont complètement complices à 50% chacun de la destruction de la culture marquisienne. Mais c'est l'État et l'Église. Pareil. Monseigneur d'Ordillon, quand il était ici en 1860, il n'arrivait tellement à rien avec les marquisiens, c'est-à-dire que les gens étaient hermétiques à la conversion, même si le témoin a été déjà converti, c'était extrêmement dur. C'était la pagaille partout. C'était la pagaille. Donc, n'arrivant à rien, il a réclamé l'aide du gouverneur de Tahiti à l'époque, et ils ont pondu un règlement pour la, ça s'appelait le règlement pour la bonne conduite des habitants de l'île Nukariva. À l'époque, on disait Nukariva. Même encore dans les années 50, il y a des gens qui disaient encore ça. Et ce gouverneur a nommé Monseigneur directeur des affaires indigènes, mais ce n'est pas le code d'Ordillon, c'est moitié l'État, moitié d'Ordillon. Donc il ne faut pas oublier ça. D'ailleurs, ce code n'a été en vigueur que 2 ans, mais il était extrêmement rigoureux, extrêmement sévère, et il est à la base de la destruction totale de la culture, puisqu'il interdisait tout ce qui était païen. Danser, chanter, se mettre des parfums, se mettre des fleurs, battre le tambour, se tatouer, tout était interdit sous peine d'amende et de punition. Donc forcément, devant un tel règlement, les gens se sont pliés. La seule révolte qu'il y a eu vraiment, c'était dans le sud, en 1880, parce que tout le monde était ici, l'administrateur était là, l'évêque était à Taïora, et donc au sud, c'était loin. Donc ils ont dit, les Français, ça va. Et ils étaient prêts à la guerre, c'est pour ça qu'en 80, l'armée est intervenue, la marine, avec 1400 hommes, et en 3 jours, tout a été réglé, sans effusion de sang, on a ramassé 600 fusils, et à partir de là, les marquises se sont éteintes, puisque... Il n'y avait plus rien à faire. Tout leur était interdit, quoi. Tout ce qui était marquisien authentiquement était interdit. C'est à ça que sert l'histoire. Mieux comprendre le passé pour mieux vivre son présent et envisager l'avenir en sachant d'où on vient. Moi, je ne viens pas d'ici. Moi, je sais d'où je viens. Je suis vendéen. Donc, j'ai aussi une lourde histoire avec mes ancêtres qui se sont fait massacrer par la Révolution, brûler dans les églises et tout ça. Mais je le sais, tout ça. Je sais d'où je viens. Donc, ça sert à progresser. Quand on ne sait pas d'où on vient... C'est très difficile de choisir une vraie identité. Il faut connaître son histoire. C'est pour ça aussi que j'ai fait ça. J'ai beaucoup de liens communs personnellement avec les marquises, beaucoup de connexions personnelles, c'est-à-dire aussi au point de vue caractère, cette franchise, ce manque de sophistication, cette brutalité, tout ça, cette clarté en quelque sorte, ça me convient très très bien. Moi, j'aime pas les détours et tout ça, j'aime bien ce qui est clair et franc. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais connaître la vérité, pour ne pas être pris dans une espèce de magma d'incertitude qui m'emmène jusqu'à la fin. Non, je ne voulais pas ça.
Bien. Alors, est-ce que ce travail, selon toi, va pouvoir être profitable pour les jeunes? Parce que la difficulté avec les jeunes d'aujourd'hui, on leur parle en marquisien, ils te répondent en français quand même. Donc le phénomène d'acculturation persiste encore. Combien d'années, combien de générations faudra-t-il, selon toi, pour que... Les jeunes, la jeune génération, moi je parle par exemple de Noah, il a juste 14 ans, c'est mon petit-fils, je lui parle en marquisien, il comprend, mais, et pourtant, on lui apprend le marquisien. On essaye de se débrouiller, mais bon, avec toutes les pollutions extérieures, avec le style que les Tahitiens ont emprunté aux Américains, aux Hawaïens, en rajoutant bien sûr les choses un peu à la mode. Alors du coup, nos jeunes sont quand même encore un peu paumés en 2018 sur la base de cette langue. Et pourtant, ils sont très très fiers. Ils disent « Ah oui, ça c'est marquisien. » On entend Poiti chanter comme avec « Ah oui, je suis marquisien. » En plus, il est de chez moi. Donc... Selon toi, combien de générations encore faudra-t-il attendre pour que le marquisien, la nouvelle génération, s'approprie sa culture, sa langue et son histoire?
Alors, tu vois, moi, j'ai fait un choix aussi dans mon travail. Ce que j'ai fait, c'est parce que n'importe quel étranger peut le faire. Apprendre l'histoire, même apprendre la langue, ça peut se faire. Tout ce qui touche à la langue et la culture, j'essaie de rester en retrait. Pourtant, au départ, c'était ça mon intérêt, la langue. Mais justement, ça fait maintenant 24 ans que je suis aux marquises. Malheureusement, j'ai pas peur de le dire, je vais certainement blesser certaines personnes, mais je ne vois pas les choses aller mieux. Il y a pourtant l'Académie qui fait son boulot, qui publie des bouquins, etc. Mais je le dis là, les yeux dans les yeux avec vous, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais effectivement, alors qu'on a tous les moyens techniques maintenant pour conserver cette langue qui a perduré, cette langue que parlait Kiatonui et Vaikehu, cette langue que quand on parle, elle est le seul lien entre le passé et le présent. C'est le seul lien vivant tous les jours. Tous les jours, quand vous parlez marquisien, il y a te kao au te eo enan. Quand je parle marquisien, je suis l'écho de la langue des ancêtres. Et ça, c'est très important. Et donc, ce que je vois, moi, oui, il y a beaucoup de jeunes qui parlent marquisien. J'en connais quelques-uns. Leurs parents parlent marquisien, mais les plus jeunes ne le parlent pas parce que dans les familles de trentenaires, on ne parle pas marquisien aux enfants. C'est ça le plus grand danger. C'est ça le plus grand danger. Si les gens ne parlent pas marquisien dans les familles, c'est foutu. C'est foutu parce que c'est les parents qui font le lien avec le passé. C'est logique. C'est les anciens qui transmettent aux jeunes.
Juste une petite parenthèse. Donc, tu étais 6 ans à Wapo, oui. Mais lorsque tu t'exprimes en Eorinal, tu ne prends pas à aucun moment l'accent de Wapo. C'est voulu, c'est...
Je ne sais pas, quand j'étais à Wapo, je parlais avec l'accent de Wapo. Maintenant, je suis à Nukuhiva, j'ai appris à parler, au lieu de dire Ko et bien sûr et Koto. Ouais. Quand je rencontre des gens de Wapo, je remets mes cas là où il faut, quoi. Hein. Parce qu'ils le savaient.
Monseigneur Leclerc, lui, n'hésitait pas à mettre dans Pimango, par exemple, cette façon de parler à Wapo, ou à Rivarua aussi. Il y avait une espèce de mélange des trois expressions, Wapo, Rivarua et Nukuhiva, bien sûr.
Mais enfin, la langue, ça mériterait de faire le sujet d'une autre émission, parce que c'est un sujet très brûlant, en plus. Hein. C'est un sujet très brûlant, parce que moi, quelquefois, quand il m'arrive de reprendre des gens, ils disent « c'est pas toi qui vas nous apprendre le marquisien ».
Ouais.
Tu vois, et moi je dépasse ça, je m'en fous complètement, je veux dire, je sais ce que je fais, je sais que je le fais pas pour moi, je sais que je le fais pour la culture, pour le plaisir aussi, quoi, hein. Ça m'apporte que du bonheur, mais j'ai dit attention. Le général de Gaulle disait, il faut pas dire l'Europe, l'Europe en sautant comme des cabris, c'est pareil, il faut pas dire marquisien, marquisien, et puis ça suffit, non ça suffit pas. Il faut pas le dire, il faut être. Moi j'ai pas de leçon à donner, surtout pas, mais... Je sais ce que c'est. Les gens encore vivent sur des choses qui ne sont pas claires dans leur tête, quoi. Hein. La culture, tout ça, ce n'est pas clair non plus. Mais ce n'est pas de votre faute, hein, puisque, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, tout a été vraiment presque détruit, à 80%. Comme le disait Te Haumatete Tahiotu, pas un jour. On essaie de recoller les morceaux d'une culture qui est en pièces. Hein, c'est ça le travail qu'il faut faire maintenant. Et il y a des gens qui n'ont pas encore dépassé ce stade de faire ce que j'ai fait. C'est-à-dire que c'est dans les livres qu'on trouve aussi beaucoup de détails anciens. Mais comme ça a été écrit par des étrangers, eh bien les gens ne veulent pas y aller, ne veulent pas le croire. Il y a encore des gens qui me tapent sur l'épaule, qui me disent « Jacques, c'est bien, Jacob, c'est bien ton travail, mais on ne te croit pas.
Ah. »
Tu vois ? Mais ça, c'est aussi logique. C'est parce que le problème de la colonisation est encore trop ancré en eux et ils ne voient pas plus loin que ça. Il ne voit pas plus loin.
Ou alors un état d'esprit toujours un peu provocateur. Chez le
oui, mais ça, c'est normal. Il ne faut pas oublier que la France, elle est là, mais bon.
Et pourtant, Pavie existe depuis 1995. Les documents sont là. Alors, c'est vrai que la fréquentation pouvait aller beaucoup mieux. Mais on note quand même, selon Téina, de plus en plus de jeunes, mais très jeunes, et des demi ou des vrais popas, des climatisiens, ils préfèrent aller taper le ballon. S'éclater ailleurs.
Alors, tu disais tout à l'heure une chose à propos de l'histoire des marquises et de la culture. C'est vrai que je pense que les émissions, vu comment elles sont montées, 20 minutes, avec une petite chanson marquisienne au milieu, c'est pas trop long, c'est pas trop dur, on peut les écouter. Elles sont téléchargeables sur le site de Polynésie Première maintenant, mais on peut m'apporter une clé USB pour les avoir, ces émissions. Moi, je les mets sur la clé, et puis c'est fini, quoi. C'est pour ça que je suis en train de mettre un terme aussi à un projet visuel, cette fois. Audiovisuel. Donc, une histoire des marquises en images, qui sera accessible à tout le monde d'ici quelques semaines, enfin d'ici quelques mois. Pareil. Donc en images, là, je pense que ça va taper beaucoup plus les jeunes, quoi. Parce que ça fait 2 ans que je suis dessus. C'est un diaporama, mais comme les diaporamas sont extrêmement mobiles maintenant, ça, on dirait que c'est un film, quoi. Hein. Donc il y a beaucoup d'images, il y a un commentaire enregistré, tout ça. Et là, du coup, on pourra se le passer sur son ordi, sur son vinyle, etc. Quand ça sera terminé et disponible à tout le monde. Là, je pense que ça sera encore plus accessible. Parce que c'est ça le but, effectivement, de toucher les jeunes pour qu'ils se donnent la peine de s'intéresser à leur histoire. Parce que là, c'est un document vraiment pratique, quoi. Hein.
On peut espérer un jour que tout ce travail va finir sur les bancs d'école.
Ah, ben c'est le but.
Oui.
Quand j'ai eu terminé mes émissions, quand je les ai apportées à la radio il y a 2 ans maintenant, j'ai été voir tous les directeurs et directrices d'école ici, j'ai été voir aussi l'inspecteur primaire, et j'ai dit « diffuser, c'est fait pour ça, chaque école doit en avoir une ». J'avais même dit, si vous voulez, faites comme on faisait quand j'étais gamin, mais c'est impossible maintenant, pendant l'heure de réfectoire, silence, et on écoute les émissions. Une émission par jour, c'est pas beaucoup, ça fait 20 minutes. Au CED, j'ai dit la même chose. Je sais pas si frère Rémi le fait, il m'a dit qu'il les passerait à ses élèves le soir en études, mais après, il y a ce qu'on dit, puis ce qu'on fait. Hein. Mais je veux dire, c'est facile, c'est pas un truc qui prend la tête. En 60 jours, disons, ça fait 3, en 3 mois, tu peux avoir tous les jours une petite histoire des îles Marquises pendant 20 minutes avec une chanson au milieu. Ça fait quoi, 15 minutes de texte, c'est tout. C'est pas difficile à écouter. Enfin, il faut au moins avoir des enfants à partir de 10 ans, parce qu'après, en dessous, c'est un peu difficile. Mais même du collège, quoi. Parce que l'histoire, c'est quand même pas donné à tout le monde. Mais on peut s'intéresser quand même à ça.
Juste une petite anecdote pour le DNB. Noah avait à travailler, c'est mon petit-fils, il avait à travailler pour son DNB un sujet d'histoire, la guerre froide. La guerre froide. Je dis alors, il nous a rempli 3-4 pages. Bon ben voilà, évidemment, ça n'a pas été terrible. Alors que 2-3 jours avant, France O diffusait justement un magnifique documentaire. Bon, le monsieur en question qui intervenait dans cette émission est mort. Hein. Il était, je crois, à l'origine de Mauroy et Tato, Barilo, Jérôme Barilo. Et donc il expliquait également que la guerre froide, ce n'était pas juste en Europe. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu également des répercussions jusqu'en Polynésie. Mais les jeunes, si on ne leur dit pas « Ok, telle heure, tel jour, allez sur France O, il va y avoir quelque chose qui devrait vous intéresser. » Mais les jeunes, aujourd'hui, ils sont à l'heure de l'Internet, mais tout le côté ludique de l'Internet, hein, Facebook et puis tous ces réseaux sociaux, ils sont là pour s'éclater et s'amuser avant tout. Mais apprendre cette notion donc, qui demande peut-être une certaine... réflexion, du sérieux, rester concentré, ça c'est quelque chose qu'on a du mal encore à capter.
On aura toujours du mal parce que c'est pas dans... C'est pas
et demain dans... il va y avoir le câble.
Oui, alors là, ça sera effectivement... C'est comme dans toute réalisation humaine, il y a du bien et du mal, hein, il faut savoir choisir les bons trucs, mais tout ce qui est apprentissage, ça demande de l'envie. Si on n'a pas envie, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas faire entrer quelque chose dans la tête d'un enfant. Je suis bien passé, là du coup j'ai 40 ans de carrière derrière moi. C'est très difficile de faire rentrer dans la tête quelque chose dans la tête d'un enfant qui ne veut pas. On ne peut pas, c'est pas, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Puis ça ne fait que des enfants ensuite aigris ou malheureux qui ensuite toute leur vie critiquent l'école parce qu'ils ont eu des mauvais profs, c'est ce qu'ils disent. Mais il faut un minimum d'avoir envie de comprendre. Moi j'ai cette chance, c'est tout. Depuis, j'ai toujours aimé l'histoire depuis la 6e, enfin même depuis avant. Voilà, donc je veux pas me citer un exemple parce que je suis une exception presque. Tu vois. Voilà, quand t'es gamin, vu que t'as 8 ans, à chacun de tes anniversaires, à chaque Noël, on t'offre un bouquin au lieu de t'offrir un jeu. Forcément, ça dit bien quelque chose aussi. Hein. Voilà, donc après, ce qui est différent, c'est de le faire partager, évidemment. Tu disais tout à l'heure une phrase qui m'a rappelé. Greg Denning termine son livre en... Il est venu ici voir Monseigneur Hervé Lecléache avant d'écrire ce bouquin. Et il écrit à la fin de son livre, dans les dernières pages, « Je suis assis devant l'évêché de Nukuhiva et je regarde la mer. Et je me dis qu'arrivé à ce stade, je connais beaucoup mieux les morts que les vivants. Hein? » Effectivement, il n'a fait qu'étudier les morts. Et moi, j'ai écrit un article là-dessus en disant « Nous avons cette chance, nous, d'être marquises, d'être vivants. Et c'est à nous de faire vivre cette culture dont parle Denning, de la faire revivre en retournant et en lisant ce qu'il écrit pour pouvoir trouver des clés. » Hein, par exemple, tout à l'heure je parlais de Crook. Quand Crook est paru en 2007, il y a eu le festival de Hiva'oa quelques années après, et les gens de Tahuata ont trouvé dans Crook l'idée d'une... Il y avait la mort d'un chef, en particulier chez les Huavai. Ils ont fait cette fameuse danse qui nous a tous émus à la télévision, où on les voit pleurer devant la dépouille du chef, là, le dernier festival. Hein. C'était dans Crook qu'ils ont trouvé cette idée-là. Hein, c'est quelqu'un qui m'a raconté que la jeune femme qui s'occupe du groupe de Tahuata avait trouvé cette idée-là, et c'est ça qui est formidable. Et puisque tu as parlé tout à l'heure du livre que j'ai traduit, si tu veux qu'on parle un peu de ça aussi maintenant.
Absolument, absolument. Donc, Robarts, un joli pavé, hein.
Ah, oui.
Alors bon, ben, pour planter un peu le décor, il fait partie de ces beachcombers, hein, des gens qui ont déserté et qui se sont retrouvés à un moment donné sur une île comme caprice. Ils ont choisi donc de séjourner quelque temps ici sur Nukuhiva. Alors comment, je pense que comme beaucoup d'historiens, de chercheurs, on finit toujours par tomber sur le Robarts. Mais qu'est-ce qui t'a intéressé dans son livre ?
Alors, Robarts, c'est toute une histoire, effectivement. Comme tu viens de le dire, Denning cite souvent Robarts. Et je le trouvais dans plusieurs ouvrages de spécialistes en anglais tout le temps, ou on a traduit en français, évidemment, quelques passages. Et puis, ben justement, l'année où j'ai fait mes émissions, en 2016, quoi, je cherchais ce livre, parce qu'il était usé. En fait, voilà, le livre, Edward Robarts a vécu aux Marquises, Il a déserté le jour de Noël 1798 à Tahuata. À l'époque où Crook était ici chez Kiatonui à Nukuhiva. Ils étaient tous les deux là, mais chacun sur leur île sans savoir qu'ils étaient là. Il est resté environ un an à Tahuata. Il vivait entre Vaitahu et Hapatoni, entre les deux familles de chefs. Ensuite, il est parti à Hiva'oa, où il a vécu à peu près un an. Et il est arrivé à Nukuhiva au début de 1801. Et il en est parti en 1806. Entre-temps, il a épousé une des sœurs de Kiatonui. Il habitait la vallée Me'au, à peu près au fond, là où sont les captages. Comme il y avait énormément de troubles, de guerre au sein même de la famille des chefs, il est parti parce qu'il ne voulait pas choisir. Tous les chefs étaient ses amis, donc il fallait qu'il choisisse, qu'il prenne parti. Il avait peur qu'en prenant parti et qu'il soit vaincu, par exemple, ses enfants et sa femme deviennent, perdent toutes ses terres, etc. Donc il a préféré partir. Et il est allé à Tahiti, on lui avait dit qu'il pourrait s'installer en Australie, donc il est parti à Tahiti. Sa femme était enceinte d'un deuxième bébé. Elle a eu leur premier enfant est né ici à Nukuhiva. Elle s'appelait Hélène, c'est même Robert qui l'a accouché d'ailleurs. Et ensuite, ils sont partis à Tahiti, où il est resté à peu près un an et demi. Et ensuite, il est parti en Inde, à Calcutta, en passant par la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et puis, il est revenu en Australie, c'est un grand voyageur. Et quand il était en Inde, il était très très pauvre. Et un Anglais très riche lui a dit, puisque tu as une femme marquisienne, moi ça m'intéresse, les langues polynésiennes, les langues du Pacifique m'intéressent, je te paye pour que tu racontes ta vie. C'était le docteur Leyden qui l'a logé. Pendant que Robarts écrivait son journal, ce journal est rentré en Angleterre, et puis plus personne n'en a entendu parler, jusqu'aux années 1960 et quelques, au cours desquelles les Australiens, qui s'intéressent beaucoup au Pacifique forcément, et qui font beaucoup de recherches, sont tombés sur le catalogue de la Bibliothèque nationale d'Écosse, et ont trouvé le journal de Robarts, etc. Ils sont allés voir, ils ont vu le manuscrit, ils se sont dit, c'est extraordinaire. Et donc, ils ont chargé Greg Denning de s'en occuper. Et donc, Greg Denning était en plein dans ses études du Pacifique. Il a pris un peu de temps, ce qui lui a permis de prendre du recul aussi par rapport à la culture du Pacifique. Et ensuite, il l'a publié en 1974. C'était un des premiers bouquins des presses universitaires australiennes. Et puis, en 1974, 50 ans plus tard, le livre est épuisé depuis longtemps. Moi, je l'ai cherché sur Internet, il était entre 150 et 500 euros, c'est-à-dire 15 000 et 50 000 francs. Donc, je ne voulais pas acheter un bouquin comme ça à ce prix-là. Puis un beau jour, quand j'étais en train de terminer mes émissions, je le vois à 4,50 euros sur Amazon, c'est-à-dire 500 francs, à peu près. Je l'ai commandé et je l'ai eu 3 mois après. Je sais pas, il a fait le tour du monde, on aurait dit qu'il était aussi préoccupé de voyager que son auteur. Et j'ai prévenu Amazon que je l'avais pas reçu au bout de 2 mois, ils m'ont remboursé, puis finalement il est arrivé au bout du 3e mois.
Et il est ici, je crois, celui-là.
Ah ben oui, mais même il est dans plusieurs bibliothèques, mais personne ne me l'avait dit, moi. Et il est même chez Monseigneur à l'évêché, il y a un exemplaire à l'évêché, mais je ne l'avais pas vu non plus. Donc, je venais de finir mes émissions, je descendais à Tahiti, c'est exactement il y a 2 ans. J'ai commencé à lire dans l'avion en descendant à Tahiti. J'ai fini de lire, j'ai commencé à le traduire pour moi sans rien en parler à personne. Puis quand j'ai eu traduit la moitié, j'ai contacté les éditions Haerepo à Tahiti pour leur dire j'ai peut-être quelque chose d'intéressant. Ils ont sauté au ciel, évidemment, parce qu'ils attendaient ça depuis des années. Parce que pour Crook, il a fallu 10 ans pour le traduire. 10 années, Monseigneur, il avait autre chose à faire aussi, il n'était pas tout seul. 10 années. Et moi, je l'ai tout fait en 6 mois.
Ah oui.
Tous les jours, pendant des heures, et jusqu'au soir, je faisais 2 pages, 3 pages, et je traduisais. Et donc, à Noël 2016, mon livre était fini de traduire, Hier après-midi, j'étais encore au téléphone sur Skype avec Madame Koenig, Denise Koenig, la femme de l'éditeur, parce qu'on est en train de mettre la dernière main à la publication. Quand ils ont appris que le salon du livre marquisien se tiendrait à Nukuhiva, le 1er, 2e et le 3e jour d'octobre de cette année, ils ont dit qu'il faut absolument qu'on le publie en avant-première aux Marquises.
Donc les auditeurs de Radio Marquise savent,
mais je reviendrai pour en parler, dire un peu plus, parce que là, je n'ai pas parlé du livre. Alors, ce que le livre le raconte, c'est donc la vie de cet homme aux Marquises. Quand il est allé à Tahuata, les gens n'avaient jamais vu de blanc. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir qu'il était considéré comme un dieu, parce que les Marquisiens pensaient que les étrangers venaient de la Lune aussi. Ils étaient si blancs que, ils ne pouvaient pas venir d'ailleurs que de la Lune. En tout cas, ils venaient d'au-delà du ciel, c'est comme ça qu'ils disaient, d'au-delà du ciel. Et donc, les chefs se battaient littéralement pour s'en faire des amis. Donc, ils n'avaient qu'à ouvrir les bras et tout le monde l'invitait. Il était tout de suite inclus dans les familles de chefs. Donc, quand il était chez un chef, un autre chef d'une autre vallée venait, il disait « tu viens chez moi ». Donc, il allait comme ça, il échangeait son nom avec un membre de la famille, il faisait partie de la famille. Il a passé tout son temps à faire ça, à créer des liens très très forts. Et donc, il a navigué entre Tainai et un autre chef de Hapatoni. Ensuite, il est allé à Hivaoa. Il vivait entre Puamau, Hanayapa, Hanatekua et Hanaupe au sud. Il n'arrêtait pas. Il a participé à des batailles. Il raconte les batailles et tout ça. On voit comment toute la tribu arrivait, les femmes, les enfants, les vieillards qui apportaient l'eau, les nourritures, qui restaient en arrière-plan. Mais tout le monde est participé aux batailles. C'est extrêmement intéressant. Il décrit les vêtements, il décrit les danses. Et un jour, il est convié à une cérémonie qu'il ne comprend pas, à Tahaouku, sur la plage même de Tahaouku. D'un côté, il y a une tribu, de l'autre côté, il y en a une autre. La rivière est la limite. Il y a des échanges qui se passent. Comme ça, c'est extrêmement émouvant. Extrêmement émouvant de voir ces cérémonies sans toujours en comprendre la signification. Tu vois ? Et puis, plein d'autres, comme ça, quand il y a une famine, par exemple, les gens meurent de faim à Nukuhiva. Il y avait des famines qui duraient des semaines et des mois, les gens mouraient. Et comme c'était les chefs qui avaient les terres et accès à la nourriture, eux, ils étaient protégés par des tabous, par des tatouages spéciaux aussi, qui leur donnaient accès à la nourriture. Donc, les gens allaient à Wapo. À Wapo, les arbres à pin croulaient sous les fruits et il n'y avait plus personne pour les manger parce que les gens étaient morts. Ils racontent, dans certaines vallées, les gens mouraient de faim, puis quand les arbres à pin ensuite donnaient des fruits, il n'y avait plus personne. Donc, ils envoyaient des pirogues à Wapo chercher les fruits et ils racontent qu'un jour, justement, sur la plage, il y a des pirogues qui arrivent et il y avait plein de gens pauvres sur la plage qui n'avaient rien à manger avec leurs enfants. Ils plantent sa lance comme ça dans une des deux pirogues accouplées. Et il dit ça, c'est pour vous. À cause de son statut de chef qu'il avait, faisant partie de la famille des chefs, il était considéré comme un chef. Kiatonui vient le voir en lui disant, ce que tu as fait pour ces gens, tout le monde s'en souviendra pendant des générations, parce que personne ne l'avait fait avant toi. Il avait une façon européenne de voir les choses forcément. Il voyait que les gens riches avaient tout ce qu'il fallait et que les gens pauvres mouraient de faim. Donc il a voulu briser cette inégalité en faisant partager la dieuke. Il y a deux pirogues, une pirogue double. Tout ce qui est dans une pirogue, vous le gardez pour vous, puisque vous êtes allé le chercher, mais tout ce qui est là, vous le distribuez aux gens qui sont pauvres. Enfin, il y a plein d'anecdotes comme ça, extrêmement touchantes. Et ce livre, en fait, je sais pourquoi il n'avait jamais été traduit maintenant. Il est bourré de fautes d'abord. C'est-à-dire que quand Denning l'a écrit en anglais, il a conservé les fautes de Robarts. Il n'a pas corrigé.
D'accord.
Il y a des fautes à tous les mots. Et en plus, Robarts l'avait écrit sans points, sans virgule, sans rien du tout.
Oui.
Par contre, une écriture extrêmement jolie. Moi, j'ai vu une photocopie du manuscrit. C'est très, très bien fait à la plume, hein, forcément. Donc, c'est très, très bien fait, l'écriture. Mais c'était 150 pages d'affilée, sans aucun arrêt. Donc Denning, il a été obligé de faire des paragraphes, faire des chapitres, etc. Donc c'est plus facile à lire. Et en fait, c'est pour ça que personne ne l'avait traduit, parce que Denise Koenig, je peux le dire ici, m'a avoué qu'elle parle bien anglais, mais toutes ses fautes les ont complètement découragées. Parce que les mots pouvaient avoir des différents sens avec des fautes. Tu ne sais pas si c'est volontaire. Tandis que moi, ayant fait 5 ans d'anglais à l'université, évidemment, je dominais le sujet, je savais bien que derrière cette faute, il y avait tel mot qui se cachait. Donc pour moi, ça ne m'a pas posé de problème. C'est après que je l'ai su, que eux, ça leur avait vraiment posé un problème. Ils ont commencé à le traduire, puis ils étaient découragés, ils ont laissé tomber. Donc ils étaient très contents de l'offre que je leur faisais, quoi.
Ouais.
Mais en tout cas, c'est un bouquin qui peut se lire à trois niveaux, c'est-à-dire qu'on peut le lire comme un roman, comme une histoire, c'est très simplement écrit. Et puis on peut aussi piocher et puis étudier tous les épisodes. Il y a toute une grande querelle de terre à propos de Me'au et Ho'ata entre Kiatonui et sa sœur aînée, mais c'est extraordinaire. Comment les gens se battent, comment les gens font des cérémonies de réconciliation, les allers-retours entre le chef et les notables, tout ça, c'est les symboles, des bâtons, des nœuds sur des cordes, des cocos vidés, bu, pas bu, jetés à droite, à gauche, enfin tout ça. Il y a des traditions extraordinaires. Malheureusement, le seul gros défaut de Robarts, c'est qu'il ne donne pas de nom. À part Kiatonui et Putahai'i, on ne connaît pas les noms des gens. Et heureusement que Crook était là. Parce que grâce à Crook, on peut remettre des noms sur les gens dont il parle.
Donc,
c'est très, très complémentaire.
Très complémentaire, j'allais dire. Eh bien, en tout cas, tu nous as mis l'eau à la bouche, hein, Sophie. On va se précipiter et j'espère que tu pourras nous le dédicacer.
Ah ben, avec grand plaisir. Venez au Salon du Livre Marquisien le 1er, 2 et 3 octobre. Et en plus, profitez parce qu'il y aura des prix, ça sera des prix de salon. Donc, les prix ne seront pas aussi chers que dans les boutiques. Donc, ça sera intéressant, oui, oui.
J'ai cru que peut-être qu'il y a une anecdote ou deux qui ont vraiment retenu ton attention et que tu souhaiterais partager. Pour encourager, je veux dire, les gens, les moins jeunes aussi, eh bien, aller lire...
Robarts, tu veux dire
Crook. Crook, tu disais qu'ils étaient également dans la même période.
Ah oui, oui, j'étais là. Ah ben Crook, lui, c'est différent, Crook, parce que...
Lui, c'était un travail de missionnaire.
Oui, mais il a fait un vrai travail d'ethnologie aussi. Il parle des sacrifices, il parle des mêmes choses, mais en plus, il donne les noms des gens. Donc, c'est ça, le truc. Mais Crook, je l'ai lu, mais bon, ça, il n'est pas autant dans ma tête et dans mon cœur que Robarts, forcément. Surtout que les éditeurs, monsieur et madame Koenig, des éditions Rare et Poe, m'ont demandé de rédiger un itinéraire. Donc j'ai fait, à la fin du livre, il y a un itinéraire sur lequel on peut suivre tous ces déplacements d'île en île, de vallée en vallée, etc., avec les dates. J'ai fait un vrai rapport de journaliste. Ça aide beaucoup le lecteur, avec des cartes, des allers-retours. Je ne vais pas répondre à ta question, je vais répondre différemment. Par exemple, Robarts explique comment les Hapa'a qui habitaient juste à l'est de Mu'ake, là, derrière, avaient le monopole de la fabrication du Ekamoa, c'est-à-dire le parfum dont s'enduisaient les riches marquisiens. Il raconte où il est récolté, comment il est cuit, dans quelle source il est lavé, etc. Tout le processus de fabrication et ensuite comment les gens du nord allaient le vendre. Mais c'était les Hapa'a de Mu'ake, les Hapa'a de Waituku, qui avaient le monopole de ça. Personne d'autre n'avait le droit de le faire. Il n'y avait que eux, alors qu'ils étaient pourtant admis des Tei. Mais c'est aussi extrêmement intéressant. Il y en a plein d'épisodes comme ça, extra. Crook nous donne beaucoup de détails funéraires, par exemple. S'il était assez intéressé, il nous raconte comment la case à côté de laquelle il habitait, c'était la case dans laquelle était le corps du père de Tainai, le chef Honu, n'était pas enterré, il était sur une plateforme à l'intérieur d'une case, et il explique tous les travaux de... Vous savez, pour le fête de juillet, on fait plein de tressages, ou à la cathédrale, on fait plein de tressages, comme ça, tous les tressages en forme d'oiseau, en forme de roseau, en forme de pyramide même. Il explique tout ça aussi. Donc, il y a vraiment plein d'idées. Et il y a environ 2 ans, il y avait eu un grand festival du Pacifique à Palau. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À peu près. Hein. Et on interviewait, c'était en anglais, bon, on interviewait des gens de Guam. Guam qui est une base américaine maintenant, mais c'est plutôt micronésien. C'est la Micronésie, hein, parce qu'il y a des millions de petites îles. Et Guam a été conquise par les Espagnols à la même époque qu'ils sont passés en 1595. Les gens s'appelaient les Chamorros, la tribu. Ils ont été massacrés pendant 300 ans par les Espagnols, ensuite les Américains, etc. Ils ont perdu toute leur culture. Et maintenant, ils disaient que leur seule façon de retrouver leur culture, c'était d'aller piocher. Parce que les missionnaires, quand ils venaient, ils notaient tout aussi. Hein.
Oui.
Ils n'étaient pas là pour détruire, ils étaient là pour apprendre quelque chose, mais leur but, ce n'était pas de détruire. Ça aussi, quelque chose que j'ai appris en travaillant l'histoire, c'est que quand j'ai découvert les premiers catéchismes en langue marquisienne, mon cœur a sauté. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté que la langue marquisienne est interdite? Non, elle est interdite depuis les années 50 dans les écoles seulement, elle n'était pas interdite à l'extérieur. C'est pour ça qu'elle a survécu. Jamais la France n'a interdit aux marquisiens de parler leur langue. Heureusement, c'était une des choses qui n'était pas interdite. C'est pour ça qu'elle a survécu jusqu'à nous. Non seulement ça, mais les missionnaires, le premier, moi je suis catholique comme je l'ai dit, mais le premier catéchisme de 1846, il y en a un exemplaire, enfin il y en a 10 exemplaires à la cathédrale ici, publié par Monseigneur Baudichon, écrit par Monseigneur Baudichon et publié à Valparaiso en 1845 et 46. Donc ça veut dire que les missionnaires, ils ont appris la langue en quelques années et ils ont voulu, dans toutes les religions qui sont venues, ils ont fait le maximum pour apprendre la langue, pour enseigner les religions dans leur langue.
Eh bien... Merci en tout cas de partager avec autant de passion. Hein,
c'est passionnant, hein, l'histoire des îles Marquises, comme je le dis, c'est touchante et passionnante. Hein.
Ouais.
Vous êtes quand même des survivants, il ne faut pas l'oublier. Hein, s'il n'y avait pas eu le docteur Rollin, il n'y aurait plus de Marquisiens pratiquement. En 1923, il restait 2000 personnes et c'était 300 qui mouraient tous les ans. Hein. Si, avec la Deuxième Guerre mondiale, personne ne se serait occupé des Marquisiens. Entre 1923 et 1945, s'il n'y avait pas eu le docteur Rollin, À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il restait quoi, 20 marquisiens ou 30 marquisiens, c'est tout. C'est triste, hein, c'est très triste, ça fait pleurer. Hein.
Ah, c'est ce que disait également le chef Tanira. Moi, je le connaissais, parce qu'il venait souvent refaire le monde avec mon père, qui était très porté sur les livres. Et avec Tanira, il n'avait de cesse hein, de le répéter, que les marquises doivent beaucoup, énormément, à Tante Rola. Voilà. Ben, sa mémoire... peut se réjouir hein, puisque maintenant l'hôpital de Taïwan porte son nom et ce n'est que justice. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Tu voudrais peut-être rebondir sur la petite actualité, donc la venue du ministre, comment il s'appelle déjà, j'ai pas retrouvé, j'ai des soucis avec internet en ce moment, qui est arrivé donc ce matin.
Le ministre du budget, oui.
Oui, le ministre du budget. Bref, voilà. Oui. Il vient également...
Darmanin.
Voilà, c'est ça.
Darmanin.
Donc, il vient également pour voir le bateau qui va se charger donc, de tirer ce câble qui va nous relier donc, au reste du monde. Oui. Et ça, on a hâte.
C'est un vrai scandale, hein. Moi je le dis, c'est un vrai scandale.
Ah ouais, ah oui, oui. Dis-moi.
C'est un vrai scandale de la façon dont on est relié au monde par Internet. Il y a quelques années avant que je fasse tout ce travail, j'utilisais peu Internet, mais depuis 2016 que j'utilise Internet tous les jours, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un problème. C'est une vraie catastrophe, les Internet aux Marquises. Quand tu les appelles, ils te disent c'est de votre faute, vous avez un téléchargement ceci, un téléchargement en cours, etc. Ils ne prennent aucun compte de ce qu'on leur dit. Je dis que c'est un vrai scandale. Heureusement, les Marquisiens sont patients, parce que là, maintenant, on n'attend plus que ça. On n'attend plus. Normalement, c'est pour le 15 décembre. Espérons effectivement qu'au 15 décembre, ça nous fera un beau cadeau de Noël, mais on va sûrement respirer, à condition qu'ils nous fassent des offres ensuite. Des offres correctes aussi, et qui ne disent pas qu'on a bénéficié trop longtemps de prix favorisés, etc. J'espère qu'on aura de bonnes offres ensuite. Mais c'est un vrai scandale. Un vrai scandale, oui, oui.
On va terminer sur une note positive.
Ah oui.
Si tu veux bien. Tu suis de très près donc, ces mondiaux de VAA, et peut-être que tu as une information que je n'ai pas concernant notre jeune équipe de rameurs de Nukuhiva.
Oh ben, je les suis parce qu'ils s'entraînent tous les jours en bas de chez moi, donc je les vois tous les jours, je les ai vus tous les jours depuis le mois de mars s'entraîner, hein, le matin très tôt. Je ne les vois pas le matin parce que je dors encore, mais je sais qu'ils sont là. Et donc, j'ai eu la chance, comme beaucoup d'entre vous peut-être, de regarder à 13h30 hier après-midi la finale des finales. Et il faut le dire, cette équipe de Nukuhiva a participé à la finale des finales. Alors que c'est une équipe d'amateurs, de jeunes hommes qui ont travaillé tous les jours avec l'aide d'entraîneurs de Tahiti ces derniers temps, qui sont venus leur donner un coup de main. Et Philippe Lablé et toute son équipe, et aussi Tona du collège, ils ont fait un travail extraordinaire parce que, arriver en finale des finales quand on est une petite équipe de province, en quelque sorte, des îles comme ça, seule équipe des Marquises hommes, il y avait une équipe de WAPO aussi en junior, je crois. Moi, je suis très admiratif, effectivement. Je ne sais pas quel accueil on va leur faire à la mairie ou quelque chose comme ça. Mais ils sont arrivés les derniers sur 10, effectivement. Et à 15 secondes, je veux dire, entre les champions du monde et Nukuhiva, ils ont quand même participé à la finale des finales des championnats du monde de pirogue vitesse. Quoi. Donc franchement, je crois que là, ils méritent, non pas un coup de rame, mais un bel applaudissement.
On tire leur chapeau.
Voilà, on leur enlève la casquette.
Merci. Merci encore, Pérou. Je trouve que ça me touche beaucoup, des gens, des Européens, ben, s'intéressent autant au même niveau que les Koenig, Marie Noël,
oui, Pierre Rotino. Oui, Pierre Rotino et Marie Noël aussi,
bien sûr. Estime pour ces gens-là. Merci en tout cas. Le mot de la fin te revient, cher Jacques.
Le mot de la fin, eh ben, c'est toujours la même chose. Si on veut savoir vivre son présent, il faut bien connaître son passé pour pouvoir envisager l'avenir avec sérénité. Ça permet de vivre mieux et de mieux se comporter dans la vie de tous les jours aussi. Kautarnui te haka oko iamai. Apai, apai a.